Cette émission vous est présentée par Cyclan.net, votre source d'information sur l'univers Star Wars.
Hi, this is Steve Sansweet, and you are listening to Star Wars en direct.
A long time ago, in a galaxy far, far away.
A communications disruption can mean only one thing.
That thing's operational!
Hello, hello, and welcome to
Star Wars On Direct.
Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together.
If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine.
The Force is strong in this one.
Hello, what have we here?
Nice of you guys to drop by!
Hello, I think.
We would be honored if you would join us.
Alors, bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Lors de cette émission, on vous dira comment courir la chance de jouer dans l'épisode 7 tout en faisant une bonne action. On discutera des nouveaux arrivés sur la production des films Star Wars ainsi que des nouveaux acteurs. Et nous ferons la lumière sur tout ce qui entoure l'accident de Harrison Ford sur le plateau de tournage de l'épisode 7. Bonjour, mon nom est Danny Pépin. Ceux qui ne savent pas, je suis le créateur de ce podcast et je serai l'animateur de cette édition de Star Wars en direct en remplacement de Henry, qui prend une pause bien méritée. Ceci vous permettra aussi, nous permettra de rattraper les actualités parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une émission standard de Star Wars en direct. Fait qu'on va parler des actualités importantes qui sont apparues lors des dernières semaines, voire même, ça fait 2 mois, je crois. En ma compagnie cette semaine, mon confrère de longue date, le plus passionné et dévoué fan de Star Wars que je connais, en direct de Montréal, Monsieur Sébastien Minot.
Bonjour tout le monde qui nous écoute. Alors, on peut quand même rassurer les gens, Danny, n'est-ce pas? Parce que je sais qu'il y a plusieurs fans qui ne veulent pas rien savoir de Star Wars épisode 7, mais qui veulent quand même savoir comment les choses se passent. On vous racontera pas de spoilers.
Non, définitivement. En fait, je veux commencer par te dire re-bienvenue, Sébastien.
J'ai ça fait plaisir d'être là.
J'ai l'impression que ça fait on vient de reculer de 13 ans, là.
Je pense que c'est l'épisode de flashback, mais on en reparlera plus tard.
Non, c'est ça. C'est comme... parce que j'essaye de me souvenir, c'est quand la dernière fois qu'on a juste fait une émission, moi et toi, là, ça fait une éternité, là.
Ça fait énormément longtemps, effectivement, parce que je pense que c'était avant que tu déménages à Ottawa, donc on peut s'entendre que ça fait de là quand même quelques années.
Genre 2002, là. 2-3 mois avant de lancer officiellement l'émission, comme Sébastien vient juste de vous le mentionner, c'est une émission sans spoiler. Si vous voulez entendre toutes nos spéculations, toutes les rumeurs, etc., je vous invite à écouter nos nouvelles émissions Star Wars en direct spoiler. On a 2 épisodes jusqu'à présent. En fait, non, je viens de mentir un petit peu. On a eu des problèmes avec le fichier XML pour iTunes de l'épisode 2. Donc, on va régler ça bientôt. Donc, on est revenu à seulement une émission. Mais la seconde émission devrait apparaître très bientôt. Probablement, peut-être même en même temps que celle qu'on est en train d'enregistrer présentement. Je tiens à préciser que certaines news peuvent être considérées comme spoiler. On essaye quand même de rester sans spoiler, mais bon, notre politique en général se limite à tout ce qui est production et tournage, on considère ça comme correct. Mais aussitôt que ça va dans les personnages, dans les histoires, les storylines, les surprises, on n'en parlera pas du tout. Ça, c'est définitif. Puis, avec les réseaux sociaux de nos jours, c'est pratiquement impossible pour quiconque fan de Star Wars de rester 100% sans spoiler. Tout le monde va se faire attraper sur Twitter, Facebook par un de ses amis. Il va avoir beaucoup d'amis qui vont se perdre à cause de ça.
Hey, savais-tu que le personnage de Daisy Ridley va s'appeler Non!
D'ailleurs, Sébastien, qu'est-ce que c'est un spoiler pour toi? Là, je viens d'expliquer qu'est-ce que c'est un peu Star Wars en direct, mais la limite pour toi, c'est où? À quel moment donné est-ce que tu vas arrêter? C'est certain que dans notre cas, qu'on fait des émissions puis des podcasts Star Wars, on va probablement jusqu'au bout, mais est-ce que pour toi, par exemple, si le script venait qu'à être leaké ou dévoilé, est-ce que tu le lirais, par exemple?
Je pense que oui. J'ai aucun problème avec les spoilers. Je vais revenir un peu en arrière dans le temps d'épisode 2 quand toi, moi, puis une bonne partie de l'équipe de Citlan, on traduisait le script d'épisode 2, justement. Puis j'avais vu des scènes, puis j'étais comme « Ah, j'ai vraiment hâte de voir ça sur grand écran. » Puis, tu sais, je me les imaginais dans ma tête, puis là, j'avais juste hâte de les voir arriver. Puis là, quand on arrive au film, le soir même, la scène arrive, elle commence, puis elle coupe en plein milieu.
Mm-hmm. Ouais.
Puis c'est là qu'il y a comme une espèce de déception un peu. Mm-hmm. Puis après aussi, le meilleur exemple de spoiler que j'avais jamais compris jusqu'à ce que tu me l'expliques, c'est celui de la blessure d'Anakin puis de son bras robotisé.
Mm-hmm.
Puis que tu me disais que les gens qui avaient pas lu le script dans le film, quand Anakin se fait coincer le bras en dessous de la plaque de métal, puis tu vois tous les trucs qui tombent, mais là tu fais comme « Oh mon Dieu, il va se faire couper le bras, il va se faire couper le bras », que toutes nous autres qui avions lu le script puis qu'on savait que c'était pour arriver plus tard, on n'avait absolument aucun stress avec ce qui se passait à ce moment-là à l'écran. Donc, j'en ai pas de limite. Mm-hmm. Mais est-ce que je peux comprendre qu'il y a des gens qui veulent justement aller s'asseoir dans la salle de cinéma le 18 décembre au soir, puis être complètement enveloppé par la magie que va être l'épisode 7? Tout à fait. Puis, à quel point est-ce que on veut vraiment rien savoir, là? Je pense qu'il y a quand même des limites. De savoir tel ou tel personnage va être dans le film, c'est pas trop la fin du monde, parce qu'on sait pas comment ces personnages-là vont nécessairement être utilisés.
Mm-hmm.
Mais de savoir des gros morceaux, comme par exemple dans l'épisode 1, quand on a retourné la trame sonore, puis qu'on a vu à la fin Funérailles de Qui-Gon, puis là c'est comme
ouais.
Quoi? Non! Ça, c'était peut-être pas le meilleur titre à mettre à une chanson.
En effet.
Fait que peut-être des morceaux comme ça. On s'entend, là, des morceaux comme ça, c'est définitivement des spoilers, des grosses surprises, des gros moments de l'histoire, des moments clés qu'on ne va pas discuter.
Mm-hmm. Moi, dans mon cas, je pense que je vais peut-être me limiter un peu plus, comme si le script sort, je ne le lirai pas. Peut-être même le roman, la novelisation, peut-être que je ne le lirai pas. Ça va peut-être se limiter à ça, mais tous les petits spoilers ici et là, savoir telle planète, tel personnage, et ça me dérange pas nécessairement. Je pense que je vais peut-être essayer un petit peu plus de me limiter que la dernière fois. On verra si je suis capable. Mais on verra. Je veux pas confirmer pour l'instant quelle sera ma pensée pour ça.
On va commencer à vendre des chandails spoiler free till episode 7.
Ouais, c'est ça. Bon, avant de commencer aussi, je voudrais mentionner qu'on travaille aussi sur une émission Star Wars en direct Rebels, qui sera en ligne cet automne avec la diffusion de la série animée Star Wars Rebels, bien sûr. On va d'ailleurs avoir une émission Star Wars en direct Rebels numéro 0 qui sera enregistrée avant le début de la série pour vous donner un avant-goût. Là, qu'est-ce que j'ai oublié de te demander, Sébastien, c'est qu'est-ce que tu as fait récemment du côté Star Wars depuis la dernière fois qu'on s'est parlé?
Ben écoute, on se mentira pas, il y a plusieurs choses qui avancent tranquillement, pas vite, en arrière-plan, là, que les plusieurs fans qui nous suivent ne réalisent peut-être pas. Je parlerai pas de toutes les choses qui s'en viennent, parce qu'il y a des petits projets intéressants là sur lesquels on travaille depuis plusieurs mois, puis qu'on va garder les surprises. Incluant des choses sur Citlan, puis toute la communauté. Mais une chose que je peux parler, c'est qu'il y a un de nos fans de Star Wars en direct. Son nom, c'est Simon Daoudi, puis c'est un résident de la Californie. Et Simon m'a approché il y a quelques mois pour qu'on reparte un podcast un peu du type Star Wars en direct, en version anglophone. Donc là, en fin de semaine dernière, j'ai enregistré la première émission spéciale et le troisième épisode de Star Wars Impact. Et on se fait un malin plaisir présentement, environ une fois par mois, à faire un petit résumé des nouvelles, là, puis de débattre un peu sur mais qu'est-ce qui va arriver avec épisode 7?
Au moins, on a inspiré une personne.
Pas mal plus que ça. Je pense que tu as encore un livre dans ta bibliothèque qui a les mots Star Wars en direct dedans, donc je pense que tu peux en être fier.
Non, c'est certain. De mon côté, j'ai pas fait, à part le podcast, j'ai pas fait grand-chose. C'est certain que oui, je travaille sur l'évolution de l'identité de Star Wars en direct. Sébastien peut le confirmer. Puis évidemment, qu'est-ce qui va suivre? Ça va être le site web. J'ai pas beaucoup de temps par les temps qui courent. C'est vraiment fou avec mon travail. Donc, ça va avancer, ça va sortir éventuellement, mais je préfère qu'on vous offre des émissions plus régulières que voir la nouvelle version de Star Wars en direct. Le contenu est plus important que le contenant, comme on dit. Je pense qu'on a assez parlé, hein?
Je pense qu'on fait juste commencer à parler, moi, en fait.
Ouais, en fait. C'est une longue introduction. Bon, on a assez parlé. Place aux actualités Star Wars avec la chronique Hyperespace.
Oh, crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Hi, it's J.J. Abrams here on the set of Star Wars Episode 7 in lovely Abu Dhabi. All these people around that you hear and see are helping us make this movie, and it is an incredible thing. It's just surreal to be here in this amazing place with these incredible people working on this film. Like a lot of you, I've been a Star Wars fan since I was a kid. So it's truly a surreal thing to be working on this movie. I can't believe it. And we're so grateful to all the Star Wars fans out there for their support and their patience that we would like to invite you to be part of the fun here. We want to put you in the movie, in Star Wars. So starting today, we're going to give you a chance to win a trip to be in the movie. That means you get to come to London, where we're shooting the movie mostly at Pinewood Studios. It's not quite as warm there as it is here. And you get to meet the cast, go behind the scenes, and see the whole movie-making process. But more than that, we'll put you in hair and makeup and wardrobe, and you'll actually get to be in the movie. That's right, you'll be in Star Wars. But the greatest part is that by entering your chance to join us, you'll get to help us launch something else, Star Wars Force for Change. It's a brand new initiative that's dedicated to finding creative solutions to some of the world's biggest problems. It's about helping kids all around the world by supporting UNICEF Innovation Labs and programs. It's a great thing. You can check it all out on omaze.com/Star Wars. So thank you again for your incredible support. We look forward to seeing you on set.
Donc, ce que vous venez d'entendre en début de Chronique Hyperespace, c'est l'initiative Force for Change. Vous avez entendu le réalisateur de l'épisode 7, J.J. Abrams, qui vous parle d'une nouvelle initiative qui s'appelle Force for Change, qui vous permet de faire un don qui va aider les laboratoires d'innovation de l'UNICEF à développer des solutions ou des technologies innovantes afin de régler des problèmes reliés aux enfants autour du monde. Par exemple, des technologies solaires portables pour que les enfants aient du matériel d'apprentissage de meilleure qualité, des solutions de messagerie texte pour connecter les familles, etc. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est que parmi tous ceux qui auront contribué, un gagnant sera choisi. Et lui et un ami se dirigeront à Londres au studio Pinewood. Vous serez un invité VIP pour assister au tournage, visiter les plateaux, rencontrer les acteurs, mais surtout, vous serez immortalisé comme personnage Star Wars dans une scène de l'épisode 7. C'est-tu merveilleux, ça?
C'est la magie qui arrive.
Avant d'aller dans le détail de comment faire des dons et les niveaux de dons, Sébastien, as-tu contribué?
Pas encore, et tu vois, au moment de l'enregistrement, il reste encore 8 jours, et je peux te dire que ce soir, après l'émission, c'est je fais mon don.
Moi, en fait, j'ai contribué le minimum, je veux dire, c'est les 10$, je crois.
Ouais, 10$.
Je voulais avoir au moins une chance.
C'est tout ce que ça prend?
Exactement.
C'est tout ce que ça prend.
Avant d'aller dans les différentes catégories de dons, tu mentionnais vraiment que c'est la première fois qu'on voyait quelque chose du plateau de tournage, en fait.
Ben oui, en fait, je pense que c'est un sujet qui va revenir un peu au courant de cette émission. Depuis le début de toute cette histoire-là, J.J. Abrams, épisode 7, les fans ont beaucoup de frayeurs, beaucoup de réservations. Mais beaucoup de réserves, pardon, sur le producteur puis le directeur du film. Mais dans ce petit vidéo, on a eu un premier regard sur en background, c'était le décor d'une planète de l'univers Star Wars. Et soudainement, un personnage de cette planète-là est apparu. Et ce personnage-là, c'était un marionnettiste dans le fond, mm-hmm. avec un costume, puis c'était tactile, puis c'était vraiment quelque chose qui était pas rajouté en effets spéciaux. C'était vraiment quelque chose de concret. Donc,
du Star Wars classique, quoi.
Du Star Wars classique, c'est ça. Puis c'est quelque chose que je pense que ça l'a tout de suite réconforté beaucoup de fans. Mais on reviendra là-dessus un petit peu plus tard.
Mm-hmm. En fait, c'est la compagnie Omaze qui s'occupe de Force for Change. Et bien sûr, vous pouvez contribuer aussi peu que 10$ comme j'ai fait, mais ça va à des limites complètement incroyables. Et selon votre niveau de don, vous avez des avantages et des bonus qui vont avec. Et exact. Un nombre de votes qui va dans le chapeau, en fait, pour le tirage. Donc, exact. Sébastien va tout nous décrire l'étendue des possibilités de dons.
Moi, ce que je trouve dommage dans tout ça, c'est que de toute cette merveilleuse étendue de dons-là, il n'y en a aucune qui vous donne le droit à une bouteille de lait bleu. Mais une petite chose que je voudrais souligner par rapport à cette campagne-là, c'est que Disney a quand même mis déjà $1 million sur la table, mm-hmm. pour lancer cette campagne-là puis aider au démarrage là, de toutes ces innovations des laboratoires UNICEF. Donc, thumbs up Disney. Mm-hmm. Alors, je vais passer à travers les 14 choses qui restent, les 14 façons de supporter qui restent. Toi, Danny, tu as choisi d'être un supporter à 10$. Mm-hmm. Ça te donne donc un billet de tirage là, pour peut-être aller faire un tour sur le plateau de l'épisode 7. Mm-hmm. Après ça, on monte à $40 où tu es un allié. Là, à $40, tu as 4 billets de tirage. Ensuite de ça, tu es un ami. Un ami, ben ça a 7 entrées, ça coûte $70. On voit une espèce de multiplicateur ici, là. Et puis avec ça, tu vas avoir un poster de 10 pouces par 12 pouces qui indique que tu es un membre fondateur du Force for Change et un merveilleux vidéo de remerciement de J.J. Abrams. Fait que les vidéos de J.J. Abrams, là, je pense que ça va être un DVD puis envoyé en masse à tout le monde.
Qui va se retrouver sur YouTube éventuellement.
Exactement. Le plus populaire, apparemment, c'est l'avocat A. Donc, il y a différents avocats. Tu as l'avocat A, l'avocat B, l'avocat C. Donc, dans le fond, c'est les gens qui disent « oui, c'est une bonne chose, là, prenez ça ». Alors, ça coûte $100. Ces trois étapes-là, c'est 10 billets dans le tirage, et ça vient avec un chandail en édition limitée. Donc, le plus populaire, c'est celui de R2-D2. Après ça, il y a celui de Darth Vader et celui de Boba Fett. Et c'est quand même surprenant. Je suis relativement surpris que ce soit R2 qui soit le plus populaire, mais écoute, tant mieux. On s'en plaindra pas. Ensuite, qui est ce que moi, je vais appliquer pour.
OK.
Parce que c'est une cause qui, selon moi, est quand même très bonne puis qui vaut la peine. Puis, je pense que d'avoir 25 billets de tirage, c'est pas une moindre chose parce qu'il va quand même y en avoir énormément des gens qui vont avoir participé à cette campagne-là. Donc, moi, je choisis d'être un ambassadeur. Ça va me coûter $250. Je vais avoir un poster en édition limitée de 11 pouces par 17 plus le T-shirt de R2-D2.
C'est bon.
Fait que ça, c'est ça. Mais là, après ce niveau-là, on commence à monter les échelons pas mal plus rapidement.
Ça commence à être du sérieux, là.
Ça commence à être pas mal sérieux. Donc, après le niveau d'ambassadeur, t'as le changemaker. Donc, t'amènes du changement. Pour 500$, t'as 50 billets de tirage, puis tu vas avoir le droit à un poster d'épisode 7, un concept art poster, en fait. Donc, j'ai l'impression que ça va être un poster qui va être designé par Juice Chosen, on verra bien. Mm-hmm. Mais ça promet d'être quelque chose d'assez spécial, donc les gens qui vont avoir pris ça, tant mieux. Ensuite, l'initié à 1000$ va recevoir 100 billets de tirage. Non seulement il va avoir un morceau du film d'épisode 7, mais il va avoir un lithographe en plus. Donc,
Comme on avait dans la version VHS de l'épisode 1, on avait un petit bout de film, ouais, OK.
Fait que ça va être un peu ça, j'ai l'impression, là, plus le lithographe, mais bon, ça promet quand même d'être intéressant. Ensuite, tu as le Padawan. Alors, les Padawan, apparemment, ils ont énormément d'argent. 2500 crédits républicains pour 250 billets de tirage. Puis pour ça, ben t'as un buste de Chewbacca en édition limitée.
Intéressant. Donc,
quand même quelque chose de le fun. C'est ça qui est le fun de cette campagne-là. Pour les collectionneurs, c'est un véritable cauchemar.
En effet.
Alors, après le Padawan, eh bien évidemment, t'as le Chevalier Jedi. Qui est 500 entrées, donc on multiplie par 10, 5000$. Et tu vas avoir une édition limitée d'un sabre laser, le manche d'un sabre laser. Mm-hmm. Sur la photo, c'est écrit en gros, là, sample dans le fond, là, mais tu sais, mm-hmm. c'est pas ça que vous allez avoir, c'est juste un prévisionnement. Là. C'est le sabre laser de Anakin. Est-ce que ça va être des sabres laser d'épisode 7? On verra bien.
Je pense que oui, c'est pour ça qu'ils ont mis un sample.
Il y a des chances. Ensuite de ça, le maître Jedi. Hey, lui, il y en a des crédits républicains. 10 000 crédits républicains pour 1000 entrées, 1000 billets de tirage. Un script de l'épisode 7 signé par J.J. Abrams, plus la petite le sabre laser.
C'est quelque chose, là, t'as le script, là. C'est quand même un élément de collection, là.
Tu sais, en tant que personne qui possède le script de l'épisode 1 de la télésérie Flashpoint, signé par tout le cast, puis le crew, puis les écrivains, je peux comprendre qu'il y a vraiment quelque chose de le fun à avoir ça. Mm-hmm. Ensuite de ça, parce que ça a l'air qu'il y a d'autres, il y a quelque chose passé le maître Jedi. Ben, t'as le maître Jedi du Grand Conseil.
OK.
Ça va te coûter 25 000 crédits républicains.
Oh!
C'est 2500 billets de tirage, mais, puis là, je t'avertis, il en reste juste 5, OK? Mais ça veut dire qu'ils en ont vendu. Tu vas avoir le droit à un prévisionnement de Star Wars épisode 7 chez Lucasfilm.
Hey, ça, c'est fou, là.
Et t'as le droit d'amener un invité.
Hey, c'est débile. Là. En plus, c'est dans la salle de cinéma la plus technologique.
Même si tu perds, tu gagnes.
C'est ça.
Fait que si c'était pas loin de l'équivalent de mon salaire annuel, je le ferais peut-être. T'sais.
Il coûte cher le voyage d'avion, là.
Ah, c'est ça, là, tu sais. Mais en plus. Plus loin de ça, parce que là, ils se sont dit on va pousser la donne encore plus loin. Tu peux être un grand maître Jedi de l'ordre Jedi. Ça te coûte 50 000 crédits républicains.
Ça n'a aucun sens.
Il en reste juste 3.
Il y en avait combien?
Je me souviens plus exactement combien il y en avait au départ, mais je sais qu'il y en avait plus que 3. Je pense qu'il y en avait comme une dizaine ou une quinzaine.
OK. Ouf.
C'est un prévisionnement de Star Wars épisode 7. Dans ta ville ou dans une ville proche de ta ville avec 20 invités.
Hey, ça, c'est débile. Tu sais, imagine.
C'est fou, là.
prends 20 personnes, chacun donner 1000$. C'est comme.
Tu sais que j'avais pas pensé à ça avant que tu me le dises.
On se fait-tu un groupe?
J'ai besoin de 500 personnes à 100$.
Ben non, mais il y a combien de places dans une salle de cinéma?
On parle d'environ 300-400 places.
Tu trouves ce nombre de gens-là?
Ouais, mais tu peux juste avoir 20 personnes.
Ah, 20 personnes, ok, ouais.
C'est ça. Fait que faut vraiment le diviser là, par. Faut faire la
légèrement au-dessus de 1000$ chaque. Mais écoute, t'es le premier à voir Star Wars, puis t'as pas à te déplacer à San Francisco, là. C'est pas pire.
C'est ça. C'est 2500$ par personne. C'est pas la fin du monde. Puis effectivement, c'est dans un cinéma près de chez toi. Mais quand même, sincèrement, entre le voir dans un cinéma Guzzo ou un cinéma Cinéplex.
Puis à Lucasfilm, hein.
J'irai le voir à Lucasfilm.
Ouais, en effet.
Juste pour toucher la statue en bronze de Yoda.
Mm-hmm. C'est fou. En fait, c'est que les fans qui ont beaucoup d'argent peuvent pratiquement se payer des cadeaux ou se donner une grande chance d'être pigé pour être dans le film.
Ouais.
Tu sais.
C'est un tirage, ça va être laissé à la chance. Puis sincèrement, j'espère que ça va être quelqu'un comme toi qui va avoir juste supporté pour 10$, puis qui va gagner un voyage, le voyage le plus mémorable de sa vie. Parce que, comme je disais plus tôt dans l'émission, on va y revenir un peu plus tard, mais il y a un fan qui a fait un voyage sur le plateau de tournage, puis ça l'a fait les manchettes.
Mm-hmm. En tout cas, on the record... Si je gagne, Seb, c'est toi qui viens avec moi.
Je te tiens au mot. Moi, c'est plus dur, tu sais.
Ah.
Là, tu me dis ça, fait qu'il faudrait que je te prenne toi, là. Mais, tu sais, j'ai mon ami Simon à qui j'ai dit que j'amènerais. Puis, j'avoue, tu sais, qu'il y a peut-être quelqu'un proche de moi aussi que j'aimerais ça, avec qui j'aimerais ça partager cette expérience incroyable, là.
Mm-hmm.
Donc, il va falloir que...
Inquiète-toi pas, c'est pas... Les chances que ça arrive sont minces.
Exactement. Mais je pense que tout comme ce qu'on parlait un petit peu plus tôt, là, il y a des amitiés qui vont se perdre avec ça.
En effet. Donc, on va changer de sujet. Maintenant, on va parler des nouveaux arrivés sur la production. Depuis la dernière émission, il y a eu énormément d'annonces de Lucasfilm. On va passer à travers toutes ces annonces-là, une par une. S'il vous plaît, restez à l'écoute. On va essayer de parler de chacune de ces personnes-là plus ou moins en détail. Comme ils disent en anglais, « bear with me ». OK, premièrement, nous avons eu la date de sortie du premier spin-off. Donc, le premier film qui est non numéroté, si on peut dire. Donc, ce sera le 16 décembre 2016. Donc, un an après l'épisode 7. Et le réalisateur de ce film sera Gareth Edwards. Et on a appris en même temps que le scénariste sera Gary Whitta. Donc, rapidement, Gareth Edwards est surtout connu pour les films Monster, qui a paru en 2010, Godzilla, tout récemment en 2014, et... In the Shadow of the Moon en 2007, et ainsi plusieurs documentaires. Moi, personnellement, je n'ai vu aucun de ces films-là. Peut-être toi, Sébastien, t'en as vu.
Mm-hmm.
Alors, qu'est-ce que t'as pensé de certains de qu'est-ce qu'il a fait?
Ben, écoute, je vais commencer directement en retournant en 2003.
Okay.
Il a fait une série télévisée qui s'appelait Seven Wonders of the Industrial World.
Okay.
Puis c'était l'explication de comment le Hoover Dam a été construit, comment le canal de Panama a été construit,
okay.
Comment, si je me trompe pas, le pont de Brooklyn a été construit.
Mm-hmm.
C'est des séries incroyables. Moi, là, j'ai vraiment embarqué le côté historique, la chose, c'était bien filmé, bien réalisé, c'était vraiment le fun. Quand je regarde une couple d'autres documentaires aussi là qu'il a fait, puis que tu sais, c'est quand même des choses intéressantes là. C'est lui qui a fait un documentaire sur le Space Race, donc le Race to the Moon, Race to the Rockets en 2005. Tu sais, des trucs qui est comme un peu parti là depuis ce temps-là en faisant des choses comme Monsters puis Godzilla, mais incroyablement quand même là, on se cachera pas, Godzilla, ça reste un film qui est visuellement très intéressant. C'est un film qui a été le fun à regarder du début à la fin, quand même pas mal d'action, bien tourné, pas trop chargé visuellement, tu sais, contrairement à un Transformers de Michael Bay ou à Avatar, là, c'était quand même bien balancé. Donc, de ce côté-là, pour le réalisateur, aucune frayeur, aucune réserve, je suis très satisfait de ce choix-là. Je pense que ça va être intéressant, surtout pour le sujet qu'il va traiter. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça va donner.
OK.
Par contre...
Oups!
On passe à l'autre personne.
Ouais.
Donc, le scénariste, je te laisse faire son introduction.
Oui, oui. Gary Whitta, lui, est connu pour l'écriture... du film The Book of Eli en 2010, After Earth en 2013, ça c'est le film avec Will Smith et son fils, je pense.
Oui.
Et The Walking Dead, le jeu, la saison 1 en 2012. Donc, moi j'ai vu un seul. J'ai juste vu The Book of Eli. Je sais pas qu'est-ce que tu t'allais dire avant que j'introduise tout ça.
J'ai vu The Book of Eli, mm-hmm. J'ai vu After Earth. Quand je prends tout ça en considération, j'avoue que j'ai une petite frayeur au niveau du scénario.
Mm-hmm.
J'ai peur qu'il y ait une espèce de laps au niveau du timing, que les choses soient peut-être un peu trop longues là, ou qu'il y ait des longueurs. Seul le futur nous le dira. C'est quand même c'est un jeune écrivain. Donc, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Mais j'avoue que j'ai une petite réserve pour ce scénariste-là.
OK. Moi, ben, j'ai juste entendu que le jeu de Walking Dead était très bien fait, le scénario. Donc, c'est juste qu'est-ce que j'ai entendu. Et de Book of Eli, j'ai bien aimé. Ils ont gardé la surprise jusqu'à la fin. Ça a été relativement tissé correctement. Donc, j'ai apprécié ce film-là. Ça faisait je l'ai juste vu cette année. Ça faisait une éternité que je le voyais passer à la télévision, puis je n'étais jamais capable de le voir en entier. J'ai bien aimé. De là à savoir comment il va transcrire le premier spin-off, on verra. Donc, ensuite, on a aussi appris... qui sera le réalisateur du deuxième spin-off, ce coup-là, qui est prévu pour 2018. On peut supposer que ça va être en décembre encore, à moins qu'il fasse un réajustement à des films numérotés au mois de mai éventuellement. Et l'heureux élu est Josh Trank, qui est connu pour Chronicles, le film Chronicles, et qui est en train de filmer présentement le reboot de Fantastic Four. Donc, je n'ai vu ni un ni l'autre le reboot de Fantastic Four, personne ne l'a vu encore. Là. Mais Chronicles, je pense que c'est un film que tu aurais peut-être vu, Sébastien. J'ai l'impression que tu l'aurais vu. Est-ce que j'ai raison ou pas?
Écoute, donne-moi 30 secondes, je vais revérifier. Là. non, en fait, j'ai... Ah oui, je l'ai vu.
C'est les jeunes qui découvrent un morceau de... Un truc extraterrestre, puis il commence à avoir des pouvoirs, puis il y en a un qui l'utilise plus pour le mal, je pense, ou quelque chose comme ça, là.
Ouais, ben dans le fond, c'est ça qui arrive hein, quand on vient qu'à avoir du pouvoir, là, c'est on l'utilise d'une manière ou d'une autre, mais des fois, ça se peut que le pouvoir commence à prendre un peu le dessus sur nous, là.
Mm-hmm.
Puis des fois, ben il arrive des choses, puis ben on est plus nécessairement trop conscient de ce qu'on fait avec notre pouvoir.
Anakin Skywalker...
Ben justement, t'es pas loin, mais je pense que c'est un film qui était quand même très bien écrit puis très bien réalisé. Donc j'ai beaucoup d'espoir pour ce jeune réalisateur parce qu'il est plus jeune que moi, là. Il est plus jeune que toi, il est plus jeune que plusieurs autres fans de Star Wars aussi.
Mais ça c'est un film caméra à l'épaule, je crois. Hein?
Chronicle, ouais, pas mal.
Sauf vers la fin, apparemment, étant donné qu'ils ont des pouvoirs de lévitation puis de
ouais, il a fallu qu'ils
télékinésie,
certaines...
les plans de caméra sont plus fixes parce qu'ils au lieu d'avoir la caméra à l'épaule, ils la lévitent à côté d'eux.
Ouais, ils font des choses. T'as des grands plans aussi là, pour voir un peu plus qu'est-ce qui se passe et tout. Là.
Okay.
Donc, j'ai ça, j'avoue que j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Mm-hmm.
Pour comme directeur de spin-off, là, ça va être intéressant, c'est sûr et certain.
Mais tu te rends compte, si tu étais Josh Trank, le reboot de Fantastic Four, tu t'en foutu un peu, tu le sais que tu vas faire Star Wars après.
Ben, c'est... On va espérer qu'il va bien finir sa job.
Ouais, en tout cas, il doit avoir signé un contrat quand même. Là,
mais ça peut pas être vraiment pire que ce qui existe déjà.
Non,
là,
c'est sûr.
On verra bien.
C'est sûr. Ensuite, on a appris que Lucasfilm a engagé Tony To, l'ancien vice-président de la production chez Disney, qui va maintenant occuper le poste de chef de la production et du développement des projets, puis il répondra directement à la nouvelle présidente Kathleen Kennedy. On apprend, entre autres, qu'il va s'occuper, qu'il va superviser la production des films à venir, mais également, ouvrez les guillemets, les projets destinés à la télévision, fermez les guillemets. Récemment, Tony To était responsable de la production de films comme Maléfique, mais je suis particulièrement excité par le fait qu'il a été producteur adjoint sur les séries, les mini-séries Band of Brothers et The Pacific, et ainsi que From the Earth to the Moon. Ça, yes. ça va me toucher particulièrement, et j'espère juste que ça va, s'ils font des séries Star Wars, que ça va être dans la même veine, parce que ça va être incroyable.
Ben, tu sais, justement, ça, j'étais pour dire, on se souviendra, les fans de science-fiction des années 90, de la télésérie Earth 2. Mm-hmm. Lui, il a travaillé comme producteur exécutif là-dessus. Donc, quand on rajoute à ça Harsh Realm, qui était quand même une très bonne série télé, mais là, que par-dessus ça, qu'est-ce qu'on rajoute? Band of Brothers, We Stand Alone Together, qui est un documentaire dérivé, The Pacific, puis From the Earth to the Moon, je pense qu'on est en bonne main. Mm-hmm. Moi, ça va bien aller au niveau de la production. Je pense qu'on est correct.
Mais tu sais, on parle de spin-off. Supposons qu'on avait entendu qu'il y avait un spin-off qui pouvait s'appeler Red 5, peu importe. Là.
Pas de spoilers! Pas de spoilers!
C'est pas un spoiler, c'est un autre code. Peu importe. Imagine que, bon, le spin-off, supposons qui décide d'aller voir dans Legends, qui est anciennement l'univers étendu,
ouais, ouais.
Il dirait, fais-moi en 10 épisodes la série New Jedi Order. Ce serait-tu écœurant?
Ça pourrait être vraiment fou, mais encore plus dans sa ligne de pensée, Band of Brothers, Pacific Rim, tu nous fais quelque chose comme série X-Wing post Return of the Jedi, tu sais,
mm-hmm.
avec comme Wedge et tout ça. Là, oh, ouais. Ça... On pensait qu'on était pour être correct, puis finalement, ben, on s'est fait coincer sur Hot pendant des mois. Tu sais, mm-hmm. Quelque chose de même, là, ça pourrait être quand même vraiment, vraiment incroyable.
Ouais, voir un aperçu du côté militaire de la République, ouais. Là, vraiment focusé. Là. En tout cas, on va s'enlever des idées de la tête. Là. C'est des délires de fans encore. Là, donc. Mais bon, ça, je crois que c'est un excellent choix.
Plus... Oui.
Plus que les deux autres, personnellement, on va voir ce que ça va donner, évidemment, mais lui, c'est pas engagé juste pour diriger un film ou un spin-off, c'est vraiment, il travaille chez Lucasfilm.
Ouais.
Puis il s'occupe de la production, puis il va diriger des gens, puis ils vont sortir des idées, puis ça va être vraiment intéressant. Là. Il est comme le bras droit de Kathleen Kennedy, donc c'est vraiment intéressant.
Justement, tu mentionnes Kathleen Kennedy, je veux juste faire une parenthèse. Est-ce que tu es un fan de Back to the Future?
Définitivement.
Ben, savais-tu que Kathleen Kennedy a travaillé sur Back to the Future?
Oui, j'avais entendu beaucoup de choses de Steven Spielberg.
Ben, donc, je pense qu'on est en bonne main aussi avec
mm-hmm.
elle.
En effet. Oui.
Mais, la prochaine personne dont tu vas nous parler, là,
mm-hmm.
elle, là j'ai le sourire d'une oreille à l'autre.
OK. Donc, finalement, et non le moindre... On nous a annoncé que Rian Johnson sera le scénariste et le réalisateur de l'épisode 8 et 9. Donc là, on s'en va dans les films numérotés, comme j'appelle, donc l'arc principal de l'histoire. Il est connu pour avoir réalisé Brick, que je n'ai personnellement pas vu, en 2005. The Brother Blooms non plus, que j'ai pas vu en 2008. Loopers, que j'ai vu en 2012. Ainsi que 3 épisodes d'une de mes séries télé préférées, Breaking Bad, dont 3 épisodes qui ont été considérés comme certains des meilleurs de la série, donc l'épisode Fly en 2010, Je pense que c'est celui qui a eu une mouche dans le laboratoire. 51 en 2012, ça c'est l'épisode de l'anniversaire de Walter White. Et Ozymandias en 2013, qui est l'épisode qu'un des personnages principaux se fait tuer. Là. Donc, vas-y Sébastien.
Écoute, je pense que tu as bien résumé le curriculum de l'homme en question. Mais moi, je vais te dire très franchement, là, j'écoute Brothers Bloom au moins une fois à chaque 3 mois.
Sérieux. Ça parle de quoi, ça?
C'est un excellent film. C'est deux frères qui commencent très jeunes à devenir des con men, okay. Et qui développent, dans le fond, leur vie de cette manière-là. Puis c'est très excellemment bien écrit. Tu tombes dans le film du début jusqu'à la fin, c'est vraiment bon. Donc, je veux pas gâcher la surprise aux gens qui ne l'auraient pas encore vu. Là, je vous laisse découvrir, mais je vous recommande très fortement The Brothers Bloom. Okay. Très, 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 très bon film. Donc, okay. Moi, personnellement, que Rian Johnson va s'occuper de ça, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça va donner.
Puis une autre chose qui est intéressante, il a fait du cinéma et de la télévision.
Ouais.
Donc, il va peut-être être réutilisé par la suite aussi, que ce soit s'ils font des mini-séries, faire quelques épisodes ou une série télé future, ça peut toujours être intéressant. Donc.
Exact. Qui sait?
Mm-hmm. Moi, personnellement, Looper, j'ai bien aimé. C'est un petit peu difficile à comprendre si tu l'écoutes seulement une fois, là, surtout vers la fin. Là.
Ouais.
Mais veut dire, il y a du développement de personnages dans ce film-là énormément, donc j'ai bien aimé. Puis le fait qu'il écrit et réalise... C'est des points positifs complètement. Il pense à l'histoire et comment il va le filmer en même temps. Donc, c'est ça qui est intéressant. Là.
Ça va lui permettre de vraiment amener sa vision à l'écran. Donc, je pense que ça va être quelque chose de très, très, très intéressant.
Mm-hmm. Donc, c'était les nouveaux arrivés chez Lucasfilm. En fait, pas chez Lucasfilm, mais en fait, tous ceux qui vont participer à la production en tant que telle. Donc, derrière la caméra. Maintenant, on va parler de tous les nouveaux acteurs et actrices, donc ceux devant la caméra. Donc, on a appris, ça fait quand même quelques semaines qu'il va y avoir deux nouvelles actrices. Donc, on commence avec Lupita Nyong'o, qui a longtemps fait partie des rumeurs du casting. On en parlait pratiquement dès le début. Elle est surtout connue pour sa performance dans 12 Years of Slave, qui lui a valu 37 prix, dont l'Oscar de la meilleure actrice dans un rôle de soutien. Elle n'a pas fait grand chose d'autre à part 12 Years of Slave. Elle va jouer une voix dans le livre de la jungle qui sortira en 2015, mais à part ça, elle est très jeune. Donc, qu'est-ce que tu penses? As-tu vu 12 Years of Slave, Sébastien?
J'ai pas encore vu 12 Years of Slave, mais ce que j'aime justement de Lupita Nyong'o, c'est que ça semble une actrice très passionnée.
Mm-hmm.
Puis le fait justement qu'elle a gagné des prix, incluant l'Oscar de la meilleure actrice de soutien, ça nous démontre à quel point on prend quelqu'un qui est pas nécessairement très connu, donc on reste dans les mêmes tracks que le Star Wars classique,
mm-hmm.
mais qu'on prend quand même quelqu'un qui a une expérience puis qui va être capable de laisser sa marque sur le film.
Mm-hmm.
Donc ça, je pense que c'est un two thumbs up là. Mm-hmm. Puis j'avoue que j'ai vraiment hâte de voir le résultat.
Okay. On vous dira pas c'est quoi les rumeurs sur son personnage. Si vous voulez avoir des soupçons d'idées, ben écoutez nos émissions spoiler parce qu'on veut pas vraiment vous spoiler ici. De toute façon, c'est encore très vague, c'est seulement des rumeurs. Donc.
Puis là, ça vient d'être chamboulé par les dernières annonces en plus. Là, toutes
exactement.
Ces idées-là.
Donc, regardez, là, on est tous dans la spéculation totale présentement. Donc, la deuxième actrice qui a été nommée en même temps est Gwendoline Christie. Qui c'est cette dame, Gwendoline Christie?
Une grande surprise.
Grande, en effet.
Je dis pas juste ça parce que c'est une grande dame.
Donc, elle est sortie de nulle part parce qu'elle n'a jamais été dans les rumeurs, pas du tout. Et elle est surtout connue pour son rôle de Brienne of Tarth dans la série Game of Thrones, donc la femme chevalière qu'on dans Trône de Fer en français. Donc, ce que j'ai entendu entre les branches, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que le rôle de Christie était destiné à un homme, mais la production aurait été convaincue de changer pour une femme, un peu comme Starbuck dans Battlestar Galactica. Donc, ça reste à confirmer, mais c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas entendu parler du tout.
Un peu comme Luke aussi, amené dans l'histoire.
Ouais.
Donc, c'est... Je pense que ça reste à voir. Mm-hmm. Je pense que les chances que J.J. Abrams soit allé prendre une bière après la job puis qu'il ait rencontré Gwendolyn Christie au pub pas loin des studios puis que ça soit comme ça qu'elle ait obtenu un rôle, c'est pas impossible. Mais je pense que c'est parce que c'est quand même une personne qui a beaucoup de présence à l'écran. Mm-hmm. C'est une très bonne actrice. Donc, j'avoue que j'ai vraiment hâte de voir le rôle qu'elle va jouer. Puis j'espère que ça sera pas juste un petit rôle là, comme ça de passage, mm-hmm. tu sais, un peu à la Bail Organa dans les
prequels.
Là. J'espère que ça va être un peu plus... qu'il va avoir plus de viande sur le personnage.
Mais moi, j'espère qu'ils l'ont choisi un peu parce que elle a un entraînement de maniement de sable. Je veux dire, écoute, ça peut être très, très utile dans Star Wars.
Ça peut, mais on n'ira pas trop dans les spéculations.
Non, c'est ça, mais on peut supposer plein de choses, mais bon, on va sûrement voir un sable laser dans l'épisode 7. Spoiler!
Il y a des chances.
Ensuite, on a appris l'ajout de deux nouveaux acteurs-actrices. Donc, si vous vous souvenez, en fin d'année dernière, Lucasfilm et Disney avaient invité plein de jeunes acteurs à se présenter pour auditionner dans le but de jouer un rôle dans l'épisode de Star Wars. Ceux qui se souviennent, c'était deux rôles qui étaient surnommés Thomas et Rachel, je crois. Oui?
C'est Thomas et Rachel Wannabes.
OK, c'est ça. Donc, cette audition s'est déroulée dans 11 villes à travers l'Amérique et l'Angleterre. Il y a 36 000 personnes qui se sont présentées en personne. 30 000 autres qui se sont inscrits via Internet. Probablement en soumettant des vidéos, etc. Et puis, grâce à ces auditions ouvertes, deux acteurs ont été choisis. Il s'agit de Crystal Clark et Pip Anderson. Donc, Crystal, c'est une actrice américaine qui étudie à Glasgow, qui a fait du théâtre et puis quelques plateaux de cinéma. Son premier film va sortir en 2015. Il s'appelle The Moon and the Sun. Quant à Pip, lui, c'est un acteur anglais qui est un spécialiste en parcours ou aussi le free running, ça s'appelle?
Ouais.
En fait. Il a récemment apparu dans une pub de Sony où il jouait le rôle de Spider-Man. Je ne l'ai pas vu la publicité en tant que telle, mais il paraît que très agile, ce Pip. Donc ça, c'était ce qui était officiel. Maintenant, on va passer un peu à ce qui est encore considéré dans les rumeurs parce que c'est pas confirmé du tout. De sources officielles, donc je vais te laisser, Sébastien, les annoncer.
Ben, je vais commencer par quelqu'un, en fait, qui est vraiment passé sous le radar de tout le monde. Moi-même, c'est en me promenant sur IMDb que j'ai découvert ce jeune homme. Son nom est Dixie Arnold, et il a été rajouté sur IMDb de Star Wars épisode 7, et il aurait joué de manière non créditée dans le film Page 8, dans le film Mercenaries, dans le film Wild Bill et Airborne. Et ça serait un soldat.
Ah.
Alors, c'est un des rares membres qui a un titre, dans le fond, à son nom. Les autres n'ont absolument rien. Puis lui, le seul titre qu'il a, c'est soldat.
OK.
Donc, ça se peut que ce soit un rôle de second plan, là, mais c'est quand même... C'est un acteur pour épisode 7. Donc, ça, c'en est un. L'autre qui a fait les manchettes et plus d'une fois dans les dernières semaines, c'est nul autre que la fille de Carrie Fisher, Billie Lord.
Ooh.
Donc, attention, est-ce que maman a tiré un peu les ficelles ici? On ne sait pas. Mais c'est quand même une grosse annonce là, qu'on soit rendu avec la fille de Carrie Fisher, mm-hmm. pour jouer dans Star Wars. Puis évidemment, bon, on partira pas trop sur des spéculations de quel pourrait être le rôle ou quoi que ce soit.
Ben, mais, je veux dire, c'est assez évident. Là. En fait, en fond, il y a deux rumeurs. On va les mentionner, c'est pas des spoilers. Je pense pas que je suis considéré comme des spoilers. Carrie Fisher est là. Bon, un, elle serait dans le film comme figurante. Donc, garde, rien de spécial. Les enfants de George Lucas ont été ont été dans la trilogie, puis etc. Donc, ça me surprendrait pas un rôle de figurant, pas de parole. Regarde, fine. Ouais. Ça, c'est très probable. Maintenant, la rumeur qui dit qu'elle jouerait le rôle de sa mère dans un flashback, ça, c'est... J'ai des doutes. Très fort.
Ça, c'est ça. Là, ça commence à pousser loin pas mal. Puis aussi, c'est quelque chose qu'on s'entend, là, les flashbacks puis Star Wars, c'est pas...
Ça va pas ensemble.
C'est pas quelque chose qu'on connaît très, très bien. Donc, bon.
Même si JJ a réalisé la série Lost, qui se basait beaucoup sur les flashbacks et flash-forward. Donc...
une petite réserve là.
Je viens de te mettre un doute, hein, là. Enfin, regarde, prenez ça avec un grain de sel, là. Puis regarde, personnellement, je trouve que sa fille y ressemble, mais pas tant que ça.
Ouais, elle lui ressemble, mais effectivement, c'est pas le portrait craché de sa mère.
Exactement. Et l'autre qui est tout simplement, regarde, oubliez ça là. Il va vous le dire quand même. Tom Cruise a été vu avec JJ dans les alentours de Pinewood Studio. Personnellement, je ne crois aucunement que ça va arriver. Je veux dire, tu peux pas avoir Tom Cruise, un acteur qui personnifie un peu comme Bruce Willis, qui définit les rôles de films d'action, d'acteurs d'action, dans un film comme Star Wars. Je peux pas voir ça du tout, là. Mais encore, Tropic Thunder.
On verra pas? Bien.
Qui est un rôle qui, ceux qui n'ont pas vu le film, qu'on ne reconnaît absolument pas Tom Cruise. Il est tellement maquillé. Et on peut le reconnaître un peu par sa voix, mais moi, c'est juste en voyant les crédits que je l'ai su que c'était Tom Cruise. Donc, okay. Ça peut être possible, mais bon, je pense qu'il était juste en visite dans le coin, puis il connaît JJ pour avoir travaillé avec lui sur Mission Impossible, je pense.
Peut-être que JJ lui devait de l'argent, bon, on s'entend, là.
Ouais.
Mais les grosses rumeurs, c'était qu'il était pour y avoir un remplacement d'un acteur mm-hmm. par Tom Cruise. Puis là, ben, je pense qu'on s'entend tous pour dire que c'est des rumeurs vraiment farfelues.
Exactement. Donc, on a fini sur les acteurs. Maintenant, j'en parlerai pas énormément. En tant que tel, je vous invite à aller écouter nos émissions Star Wars en direct Spoilers pour tous les détails et spéculations. Mais bon, il y a quelques semaines, il y a eu TMZ qui a dévoilé une tonne, énormément de photos de tournage. On n'en parlera pas parce que c'est définitivement un spoiler. On voit toutes sortes de choses. On peut spéculer aussi. On n'ira pas dans le détail. Mais ce que je veux qu'on parle, c'est que le timing de ces trucs-là était assez hallucinant. Puis ils ont aussi, en même temps, annoncé justement les deux actrices comme immédiatement, tout de suite après, comme ils nous ont pas fait attendre ou garder en haleine. Ils ont lancé immédiatement encore des actualités, etc. Donc, la chose qu'on se demande, est-ce que toutes ces images-là qui semblaient vraiment prises pas caché dans un véhicule ou quoi que ce soit, là.
Non, c'était comme...
C'était vraiment sur le plateau avec le gars, il y a une belle caméra.
Avec un téléphone. Ben, avec une bonne caméra, en plus, là. C'était pas juste une caméra téléphone, là.
C'est ça. Donc, déjà, avoir un accès comme ça, c'était assez hallucinant. Donc, la question que je veux te poser, Sébastien, est-ce que c'est une coïncidence ou c'est juste du bon marketing de la part de Disney?
Écoute...
Disney Lucasfilm, là.
On se cachera pas... qu'on ne peut pas avoir un film de Star Wars sans qu'il y ait des images qui fuient de la production. Au point où est-ce que même J.J. Abrams en fait une blague là, sur son Twitter. Donc, est-ce que c'était un coup de pub de manière assez magistrale de la part de Disney Lucasfilm? J'aurais tendance à dire oui.
Ouais.
Le fait qu'il soit passé par TMZ en plus pour tout comme pas pu ben, dévoiler tout ça. Mm-hmm. Je pense que ça fait juste partie du coup de pub de on va s'éloigner un peu de ça, là, puis on va les laisser sortir de quoi. Puis comme ça, ben ça va donner un peu un avant-goût aux fans, là, puis ça mm-hmm. va mousser un peu là, l'engouement pour le prochain film.
Et TMZ est reconnu pour être un espèce de tabloïd, puis d'avoir des
trucs du genre.
Donc, c'est la place à donner des informations douteuses, tu sais, pour paraître pas trop.
Ben, ils ont annoncé la mort de Tracy Morgan alors que l'acteur avait juste eu un accident. Donc, tu sais, c'est. Mais c'était quand même ce site-là qui était le premier site à avoir annoncé la mort de Michael Jackson il y a quelques années. Donc, bon, on s'entend, là, c'est un site de nouvelles de films. Est-ce que c'est le genre de choses qui va être dévoilé à cet endroit-là? Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais la façon que les photos étaient prises, la façon que les choses étaient présentées, c'était presque pour un article de Vanity Fair. Là. Fait que je suis pas mal sûr que c'est un coup de pub.
Exactement. S'il aurait envoyé les photos à un site comme Hollywood Reporter ou ben tu sais, les ceux qui font du journalisme vraiment, qui vérifient leurs sources, là, ça aurait été trop évident.
Non, mais soit que c'est un coup monté de toutes pièces, soit que c'est vraiment quelqu'un qui a perdu sa caméra qu'il avait sur le set. Puis TMZ, puis dans le fond, la personne qui a trouvé la caméra a regardé les photos, ils ont fait « Ah! C'est des photos de Star Wars épisode 7. Qui c'est qui va me donner le plus d'argent pour ça? » Probablement TMZ.
Il a pris la carte SD puis il est parti avec.
C'est ça.
Enfin, on va voir comment que le marketing va se faire dans le futur. Ça va peut-être être une indication de les prochaines choses qui vont être leakées. On n'en a pas eu depuis, ou presque pas. Il y en a eu, je pense, aujourd'hui. On va en parler dans une prochaine émission spoiler, probablement. Mais enfin, on va voir comment que ces nouvelles photos-là vont être dévoilées, si la qualité est aussi bonne. Je me souviens, la première photo qu'on a vue d'Abu Dhabi, c'était pris de très, très loin. Donc, c'est la qualité des photos m'indique qu'en fait, on peut toujours se poser la question. On ne le saura jamais, à part quand ils vont sortir les gros livres making of, on va pouvoir le lire et ils vont le confirmer probablement rendu là. Donc, justement, on parlait de ça. Donc, encore une fois, je vous rappelle qu'on fait des émissions Star Wars en direct spoiler. Donc, ceux qui veulent s'imbiber de rumeurs et de spéculations, on vous invite à aller les écouter. Ceux qui veulent rester le plus spoiler-free possible, ben c'est pour ça qu'on fait nos émissions Star Wars en direct maintenant sans avoir une portion spoiler. Donc, on peut y aller d'un seul coup sans que vous ayez besoin de fast-forwarder un segment. Donc, maintenant, on va aller dans un des sujets qui a duré plusieurs semaines même, qui est encore un des sujets les plus parlés présentement concernant le tournage de Star Wars, c'est la blessure de Harrison Ford. Qu'est-ce qu'on a entendu en tant que tel par rapport à l'accident? Donc, c'est le 12 juin dernier, Disney a annoncé que Harrison Ford s'était blessé à la cheville lors du tournage de Star Wars épisode 7. La déclaration mentionnait que, ouvrez les guillemets, Harrison Ford a subi une blessure à la cheville pendant le tournage aujourd'hui sur le plateau de Star Wars, épisode 7, et qu'il a été transporté à un hôpital local pour recevoir des soins. Le tournage se poursuivra comme prévu pendant qu'il récupère, fermez les guillemets. Donc, le Hollywood Reporter nous a ensuite annoncé que l'accident s'est produit sur le plateau du Falcon Millennium, donc le plateau M, comme il l'appelle.
Exact.
Et le Daily Mirror, basé à Londres, prétend que l'accident s'est produit quand une porte hydraulique est tombée et a frappé Ford. Donc, ouais.
Mais on a quand même eu plus peur que ça, parce que là, tu l'as bien résumé sur ce qui s'est vraiment passé. Mais la première nouvelle a été, un acteur se fait héliporter de Pinewood Studios jusqu'à un hôpital. Là, après ça, c'est Harrison Ford se fait héliporter jusqu'à l'hôpital. Harrison Ford s'est fait écraser par le Faucon Millennium et se fait transporter à l'hôpital. Harrison Ford va survivre de s'être fait écraser. Harrison Ford s'est fait écraser la jambe au complet en dessous. Et là, ça prenait des proportions qui n'avaient plus aucun sens. Donc Disney et Lucasfilm sont intervenus. Puis c'est là qu'on a su ce qui s'était un peu plus passé. Si on est encore un peu flou là, sur les détails exactement. Moi, je pense que c'est clair.
Ouais. En fait, qu'est-ce que tu. Dans toutes les séquences que tu as dit, oui, les rumeurs, bon, c'est sur la période de réhabilitation qui a été critique puis qui a fait un peu paniquer les gens.
Ouais.
C'est qu'ils disaient, tu sais, ça a varié en 2 semaines de réhabilitation jusqu'à 6 mois de réhabilitation. Donc, certains disaient que la blessure était super sérieuse, d'autres moins, d'autres que la carrière d'acteur d'Harrison Ford était finie. Là, les fans ont commencé à paniquer complètement. Même moi, je commençais à être « Oh boy, ouais, ça commence à être sérieux, là. » Tu sais. Toi, c'était quoi ta réaction, toi, quand tu l'as entendu?
Ben moi, sincèrement, j'ai comme fait « Bon, qu'est-ce qui s'est passé un peu? » Puis j'essayais de comprendre c'était quoi. Puis ayant travaillé dans les ateliers de décors, puis sachant un peu comment des décors s'est monté, ayant écouté multiples documentaires sur les décors de Star Wars, je me suis quand même posé des questions sur « Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? » Puis quand on a appris, ben dans le fond, c'est une des portes justement qui s'est fermée puis qui a cassé la cheville de Harrison Ford. Puis on s'entend, une cheville, c'est quelque chose de relativement simple à casser. Là. On glisse sur une plaque de glace l'hiver, puis bonjour, là, c'est double fracture, let's go, on est dans le plâtre pour un bout. Là. Ça lui soit arrivé. Moi, j'ai évidemment pris le côté rigolo de la chose en me disant le Faucon a finalement eu sa vengeance sur Han Solo, tu sais, à toutes les fois qu'il a donné des coups dessus là pour le faire partir, ben là c'est lui qui a donné un coup dessus.
Ou bien encore c'est Harrison Ford qui a dénigré son rôle d'Han Solo pendant si longtemps, là, le Faucon s'est vengé.
C'est ça, il a dit non, faut que tu sois fier de ton rôle. Fait que ben là il a plus le choix d'être fier de son rôle parce que les dernières photos qu'on a vues de lui, il portait une jambe, ben pas une jambe artificielle ni une jambe de bois vraiment là, mais c'est un peg leg qu'on appelle, donc c'est un
le pirate Harrison Ford.
C'est le pirate de l'espace, Harrison Ford. Donc, selon moi, là, ça serait même quelque chose qui serait drôle à introduire dans la production, que Han Solo perd un bout de jambe puis là, il se ramasse avec un peg leg pour le restant de la production.
Non, mais c'est ça, la prothèse, si on peut la décrire, c'est que ça a vraiment l'air d'une jambe de bois, sauf qu'il y a comme son genou d'à côté. Et sa jambe est comme pliée en 90 degrés et elle reste en arrière. Là.
C'est comme une jambe de bois, mais c'est qu'elle est en aluminium.
C'est ça.
Elle est en aluminium Falcon.
Oh, tratatis!
Excusez, elle était trop facile.
Introduire effets spéciaux ici.
Exact. Rien qu'un bovaire ne pourra pas régler.
Non, exactement. C'est ça, puis bon, ensuite, tu sais, comme pour jeter un peu de l'huile sur le feu avant qu'on voit les photos de Harrison Ford à Londres qui avait l'air à se rétablir relativement bien. Il y avait le New York Post, donc qui a l'air d'une source relativement sérieuse, disait que le rôle d'Oscar Isaac pourrait être augmenté pour compenser l'absence de Ford. Fait que là, on se disait, mon Dieu, et comment sérieux sa blessure pour qu'on change le script ou quoi que ce soit. Même moi, j'avais l'impression que, regarde, attendez qu'il guérisse, là, reculer la date de sortie de l'épisode 7, je m'en fous. Ouais. Je veux que Harrison Ford soit là et qu'il ait son plein rôle, là, qui a été écrit pour ça. Il y a un rôle principal, apparemment, donc écoutez, laissez-les guérir, puis on veut pas qu'il y ait un changement majeur. Oui.
Mais tu vois, hier, Lucasfilm ont fait un post officiel sur le blog de production, si on veut, là. Puis ils nous ont dit que présentement, la photographie principale continue à Pinewood Studio, le tournage continue, mais qu'au mois d'août, l'équipe va prendre une petite vacance de 2 semaines pour faire des ajustements sur la production, sur l'horaire de la production, en fait. Et que ça va donner le temps à Harrison Ford de se remettre de sa blessure. Donc, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Puis même, dans le press release, Harrison is doing well. Donc, Harrison va très bien. Puis Harrison a bien hâte de revenir sur le set de Star Wars épisode 7. Donc, on verra bien ce que ça donnera un petit peu plus tard cette année au mois d'août. Mais présentement, la date de sortie reste le 18 décembre 2015.
Oui, parce qu'il y avait aussi des rumeurs que Kathleen Kennedy puis JJ voulaient repousser la sortie du film pour le 4 mai 2016, mais Bob Iger a dit non, ouais. Pas question. Ben, on peut comprendre, quand même, c'est une décision d'affaires, là. L'argent, c'est ça qui parle, puis tu sais, il y a son contrat qui se termine à la fin de 2015, puis garde, il veut avoir un petit A+ sur son dossier, sur son CV, tu sais.
Évidemment.
Puis étant donné qu'il sort en décembre, imagine tous les revenus de produits dérivés, les jouets juste avant Noël, etc. Regarde,
exactement. C'est toute une... Ça, là, c'était une planification marketing de A à Z, cette date de sortie-là.
C'est ça. Il veut bien finir son année financière avant de quitter, là. Donc, ouais. C'est certain qu'il n'y a absolument aucune chance que ça change. Puis, si par hasard, il y a vraiment des retards de tournage, Disney a tellement d'argent, c'est plus comme avant. Les autres films Star Wars, c'était juste Lucasfilm puis Industrial Light and Magic qui faisaient tous les effets spéciaux. Maintenant, tu distribues les contrats d'effets spéciaux à des dizaines de compagnies d'effets spéciaux. Quand vous regardez les crédits d'un film maintenant, le générique, là, la quantité de compagnies d'effets spéciaux qui participent, Disney va juste sous-contracter s'ils ont des problèmes. Ils vont mettre l'argent pour que ça sorte à temps, voyons donc.
Ouais. Okay? Ils n'auront pas aucun problème à le faire.
Exactement. Puis bon, on parle de compagnies sous-contractées. Un exemple, c'est la compagnie d'Andy Serkis, Imaginarium, ouais. qui fait Dawn of Planet of the Apes, etc. Donc, c'est une parmi tant d'autres. Puis ça, ils en ont parlé aussi que JJ a été complètement subjugué par la performance d'Andy Serkis. Puis il a mentionné qu'il y avait un rôle dans le film. Est-ce que c'est un rôle traditionnel ou un rôle en motion capture? C'est pas confirmé, mais bon, enfin. J'ai bien hâte de voir. C'est un bon acteur, même sans motion capture. Donc.
Moi aussi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, sa participation à l'épisode 7.
Mm-hmm. Donc, maintenant, on va parler un peu d'un fan très spécial de Star Wars. Non, c'est pas toi, Sébastien.
Ah! Quelques airs de ressemblance.
Ouais, ok, on peut le dire. En fait, c'est...
On partage pas loin de la même forme.
Ok.
Mais pas tout à fait, mais...
Donc, en fait, c'est l'acteur, réalisateur, écrivain, scénariste, etc., M. Kevin Smith, qui a visité le plateau de tournage de l'épisode 7 et qui a versé une larme. Sébastien, je vais te laisser... résumer un peu l'expérience de Kevin Smith. Puis pour ceux qui comprennent bien l'anglais, à la fin complètement de l'émission, après le générique de Star Wars en direct, je vais passer l'extrait au complet qui dure entre 10 et 15 minutes. Donc, ça vaut vraiment la peine de l'écouter. Vous allez renouveler votre espoir en Star Wars et en J.J. Abrams. Parce que quand même, Kevin Smith, c'est un, comme Sébastien et moi, on parlait hors d'onde, c'est un fan, un vrai fan. qui connaît tous les aspects, autant devant que derrière la caméra. Et en fait, si lui, en tant que fan, il est arrivé jusqu'à en pleurer, c'est bon signe pour nous. Donc, Sébastien, je te laisse la parole.
Ben oui, écoute, dans un passage récent en Angleterre, notre ami Kevin Smith a été contacté par nul autre que J.J. Abrams, puis il s'est fait inviter à faire une visite là, sur le plateau. Puis Kevin Smith a tout de suite répliqué à J.J. Abrams, « Oui, bien sûr, tout à fait. » Mais t'es conscient que c'est Kevin Smith, le gars qui a fait Clerks, là, c'est pas un autre Kevin. Puis ce à quoi J.J. Abrams a juste répondu, « Oh non! » Tu sais, juste pour le juste
le
pour
niaiser,
le stresser un peu là. Donc Kevin Smith s'est donc rendu sur le plateau de tournage, puis quand il en est ressorti, il avait une larme aux yeux, il a pris une photo, il l'a mis sur son Twitter, ça l'a fait le tour du monde en une demi-seconde. Puis là, tout le monde a comme eu un petit relent d'espoir que si Kevin Smith avait versé une larme suite à une visite sur le plateau de tournage, ben là, ça devait être quelque chose. Donc, lors de son passage au Festival de films fantastiques international de Neuchâtel, Kevin Smith donnait l'une de ses nombreuses discussions en public. Et devant d'ailleurs une salle que je trouve étonnamment peu remplie, mais quand même plein de choses intéressantes. Donc, on vous invite à aller voir, à fouiller un peu pour trouver cette vidéo-là. Mais pendant 11 minutes, il a répondu à une question qui était « Parle-nous un peu de ta visite sur le plateau de l'épisode 7. » Bon, évidemment, il pouvait pas rien dire, parce que comme il en parle, il dit « Écoute, quand je suis rentré là, ils m'ont fait signer un papier pour un non-disclosure agreement pour ne pas rien dire, évidemment, de ce qui se passait. Puis, ce qu'ils ont fait, même, c'est qu'ils ont fait imprimer un poster avec un officier impérial qui a un doigt devant la bouche en faisant une espèce de chut. Puis sur le poster, c'est écrit « C'est des petites fuites qui vont faire couler une grande production. »
C'est « Loose lips, sink starships », quelque chose
sink
comme ça. «
Sink starships », ouais. Donc, quand que Morgan, qui est l'assistante de J.J. Abrams, quand Kevin Smith lui a pointé ça du doigt, elle a regardé Kevin Smith et elle a dit « Ça, là, on l'a mis juste pour toi. » Donc, on s'entend, là, il y a de quoi sourire quand même. Là, c'était quand même fait de bon cœur, la visite.
Parce que quand même, Kevin Smith, en plus de tous ces trucs cinématographiques, il fait des émissions de télé, il fait des podcasts, etc. Donc oui, il y a une avenue pour diffuser de l'information incroyable. Donc c'est certain que J.J. en a profité pour faire une petite blague là, quand même.
C'est ça, petite blague, puis aussi, bon, tu sais, bon, c'est ça, le bon coup de pub aussi en même temps. Mm-hmm. Et... Fait que là, ils ont commencé la visite, mais Kevin Smith, lui, bon, on s'entend, il y a plusieurs films derrière lui, donc il sait comment ça se passe derrière la caméra. Pour lui, c'était comme juste une autre visite de studio quand il a commencé, quand il est rentré là, tu sais. Il s'est dit, bon, c'est pas la fin du monde. Mais là, plus les choses avançaient, tu sais, comme déjà quand il est arrivé là, il a comme commencé à rajeunir un peu au niveau de son cœur. Puis là, c'est comme, ah, le fan de Star Wars ressort un peu. Puis là, ben... Il est allé sur le plateau, puis là, il a vu une scène avec J.J. Abrams et tout le kit, puis là, il a comme fait « Wow, là, tu sais, c'est vraiment, là, tu ramènes quelque chose qui manquait énormément aux épisodes 1, 2 et 3, puis c'est le côté tactile. Tu sais, c'est les bonnes vieilles marionnettes, les effets spéciaux qui sont réalisés de manière manuelle, puis pas juste avec des écrans verts. » Là.
La vraie pyrotechnie, là, pas des effets spéciaux. Là.
C'est ça, là. C'est, il dit « Ah, oh, je me promenais sur le set, puis il y avait des explosions à côté de moi, puis tout le kit. » Donc, de l'action dans l'épisode 7, ça, c'est le genre de petites choses qu'on vient d'apprendre.
Non, il va y avoir de l'action dans l'épisode 7, voyons donc.
Ouais, je te le dis. Puis là, J.J. Abrams a dit à Morgan, il dit « Amène-le sur le plateau M. » Puis évidemment, ben bon, le plateau M, on le sait maintenant, là, le faucon Millennium est sur ce plateau-là. Fait que là, il arrive sur le plateau, rouvre la porte, là, il dit « Ok, allume les lumières » à un gars qui est là, puis il fait « Oh, ok, attends un peu. » Rouvre les lumières, puis là, il se retrouve face à face avec le faucon. Mais là, il y a comme une espèce de grosse vague qui le frappe là, soudainement. C'est comme « Wow! » OK, là, je suis face à face avec le Faucon Millennium. Là. Ça, c'est quelque chose. Là. Puis là, ben, il commence à discuter avec des gens qui ont travaillé sur le design. Puis ce qu'on apprend, c'est que justement, ils ont fait un juste milieu entre le premier Faucon, qui était dans Star Wars, puis le deuxième, qui était dans Empire puis Jedi. Donc, le cockpit... était pas la même taille dans les deux films. Fait que là, ils ont fait un juste milieu entre les deux pour se rapprocher un peu là, t'sais, de la trilogie originale, mais à avoir un peu là, leur propre piquant. Donc, des petits détails intéressants là, qui nous fait part dans son allocution. Puis là, l'assistante de J.J. Abrams a dit « Est-ce que t'es prêt à y aller? » Il dit quoi? Ben, à monter dans le faucon. Puis là, lui, sa réaction, c'est quoi? Quoi? On peut monter dedans? Fait que là, comme qu'il a commencé à monter la rampe, là, à chaque pas qu'il faisait, il rajeunissait d'une dizaine d'années. Puis de par le moment qu'il est arrivé en haut de la rampe, là, Kevin Smith était un petit garçon de 7 ans, complètement excité, puis il en a pleuré. C'était comme... C'est incroyable, je suis dans le faucon. Je peux toucher les murs du faucon. Les switches, c'est tout, ça marche, c'est incroyable. Puis la façon qu'il a décrit ça, en utilisant une autre référence de la culture populaire, il dit, c'est sincèrement, là, c'est comme le champ de rêve de Kevin Costner.
Field of Dreams.
Field of Dreams. Si J.J. le construit, on va tous aller le voir. dans son allocution, Kevin n'utilise pas ces mots-là, mais pour les besoins de l'émission, je vais me retenir d'utiliser exactement la même définition. Je vous laisse aller l'écouter, puis vous allez voir que c'est vraiment très typique au caractère de Kevin Smith. Mais il y avait beaucoup d'excitation, puis c'était très clair là, que ça l'a marqué profondément. Puis la chose la plus incroyable qu'il a retenue de sa visite, c'est que les nouveaux films de Star Wars, là, c'est pas filmé devant des écrans verts. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va rassurer énormément de fans. Le fait qu'un fan aussi passionné que Kevin Smith, qui a fait des références dans tous ses films depuis le tout premier jusqu'au dernier à Star Wars, en passant des constructeurs de toits sur la Death Star, puis en allant jusqu'aux explications de qu'est-ce que la trilogie classique, puis qu'il y a juste une trilogie classique, ben, je pense que ça nous démontre à quel point J.J. Abrams est fort probablement sur la bonne voie.
Mm-hmm. Oui, puis il mentionnait, si le film de Star Wars est comme juste la moitié ou un quart de qu'est-ce que j'ai vécu là, l'émotion que j'ai vécu là, les fans vont y aller, puis le film va faire gazillion dollars. Il va faire là, comme des milliards. Il va devenir le film avec le plus grand revenu de tous les temps.
J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer au niveau du box-office. On s'entend que c'est Star Wars. On s'entend que là, la publicité autour du film commence à être très favorable. Donc, ça reste à déterminer. Mais je suis pas mal sûr et certain qu'on peut s'attendre à quelque chose d'extrêmement spécial.
Oui, j'ai bien hâte, en effet. Donc, comme j'ai mentionné juste avant qu'on parle de ce sujet, je vais, à la fin complètement, je vais repasser la section de Kevin Smith au festival de films de Neuchâtel en Suisse. Bon, évidemment, il sacre en anglais, etc. Donc... C'est à vos propres risques et périls, mais bon, ça fait partie de sa personnalité, donc je vais le passer dans son entièreté, du moins le segment qui parle de l'épisode 7, à la fin complètement de l'émission. Je vous suggère de l'écouter, ça va vous redonner le goût à Star Wars et vous soulager un peu peut-être que des doutes que vous aviez sur JJ. Donc, je vais terminer avec une petite nouvelle un peu hors contexte, mais ça touche quand même les fans, c'est que on savait que George Lucas voulait aller investir dans un musée. Bon, ben c'est le lieu du musée a maintenant été décidé. Donc, le musée d'art narratif de George Lucas va être basé à Chicago. Donc, en fait, il va être juste en face du Soldier Field, donc qui est le terrain de football des Bears de Chicago, sur un ancien terrain vacant où les fans se stationnaient et faisaient leur tailgate, là, cette espèce de barbecue avant les matchs. La raison du choix de Chicago, bon, c'était plus central. Chicago attire plus de touristes que San Francisco. J'ai des doutes, mais enfin. c'est vrai que c'est plus central. C'est sûr que le premier choix de Lucas, c'était San Francisco pour le musée, mais apparemment, le conseil d'administration du Presidio, l'endroit où est-ce que Lucasfilm est basé maintenant, a rejeté l'offre pour des raisons, selon Lucas, qui étaient... hors de contexte ou peu importe. Donc, en fait, ça l'a forcé à aller vers Chicago, là où je crois qu'il habite avec son épouse maintenant, à Chicago. Donc,
pas impossible. Je te le confirmerai pas, mais pas impossible.
Non, en fait. Mais en fait, sa conjointe a travaillé et évolué à Chicago pendant plusieurs années. Donc, peut-être qu'ils sont retournés en Californie depuis. Mais en fait, ils ont des gros liens avec Chicago. C'est le nouveau couple... Lucas et je me souviens plus du nom de sa femme, qui se sont mariés l'an dernier ou l'autre année précédente. Donc, on fera pas de débat spécifique. Habituellement, on a une section débat après les nouvelles, mais je pense qu'on a débattu assez les actualités que on va laisser faire un débat plus spécifique pour cette édition de Star Wars en direct. Hein, Sébastien, je pense qu'on a assez
débattu. Oui, c'est Melody Hobson, donc c'est Lucas Hobson.
D'accord. Donc ça, c'est la femme de George Lucas. Donc sur ce, on va passer à la conclusion de l'émission. Donc, la prochaine émission de Star Wars en direct qui va être l'édition 94. Allez, on approche du centenaire. Enfin, on a plus que 100 émissions si on compte les éditions spéciales, etc. Mais bon, dans les éditions régulières, on approche du centième. Techniquement, ça devrait être l'émission, le sujet du débat devrait être un hommage à LucasArts, qu'on sait qu'il a été dissous quelques temps après l'achat de Disney. La date reste à confirmer. Techniquement, ça devait être dimanche cette semaine, mais il va peut-être nous manquer des gens pour faire l'émission, donc ça va peut-être être repoussé. Surveillez la page Facebook et Twitter pour plus de détails. C'est ce qui termine l'émission, les amis. Donc, comme toujours, si vous avez des commentaires ou des réactions sur les sujets qu'on vient de discuter ou d'autres suggestions, même, ben, contactez-nous à l'adresse studio@commercialswendirect.com. Il va toujours avoir quelqu'un pour vous répondre. Je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nouveauté qu'il n'y avait pas dans les débuts de Star Wars en direct. J'aime bien ça. Donc, vous pouvez rejoindre notre groupe Facebook à l'adresse facebook.com/SW en direct. Et vous pouvez aussi suivre notre compte Twitter à @SW en direct. Donc, on fait paraître quelques actualités. On annonce nos émissions aussi de temps à autre. On vous invite également à nous laisser des commentaires sur iTunes. Ça va toujours nous permettre d'améliorer notre visibilité. Parlez de nos émissions à votre famille, à vos amis. Le bouche-à-oreille, comme depuis le début de l'émission, c'est une excellente publicité pour nous. Mais aussi, partagez nos articles Facebook et retweetez nos tweets. Donc, ça va aider à avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux et évidemment augmenter notre auditoire. C'est très important. Avec les nouveaux films, on essaie de rebâtir notre auditoire. C'est pas facile, donc s'il vous plaît, parlez-nous, ça va nous aider beaucoup. Donc, de ma part et ainsi que de la part de Sébastien, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et à très bientôt.
What was it like being on board the Millennium Falcon?
Oh, I'll be honest with you. Just like I talked about before, that kind of looping back moment where I was like, there was a moment where, you know, the reason I made Tusk was because I felt the same thing about, I got to make Clerks. Similar thing happened when I was on the Millennium Falcon. I went to, for those that don't know, when I was in England last week, J.J. Abrams invited me to go to the set of Episode 7, the new Star Wars movie. So he had sent me an email out of the blue while they were shooting in Abu Dhabi last month. And he said, hey, man, how are you? I've been thinking about you. We're started shooting the movie. If you're ever going to be over in England, why don't you come by the set? And I was like, I am coming to England in 2 weeks or 3 weeks. I would love to come by the set. And he was like, great. I'm going to set you up with Morgan, my assistant. She'll give you all the details. Can't wait to see you and stuff. And then I realized, like I said to Jen, my wife, I was just like, J.J. Abrams invited me to the set, to Episode 7. And she's like, are you and J.J. really that tight? And I thought about it, and I was like, I've known J.J. over the years and stuff, and we've been very friendly, and I've watched his movies early on a few occasions and stuff. He's come on to shows that I've hosted. He's been to my house. I've been to his events. But I'd never thought of us as, like, friends. And she put that thought in my head, and suddenly I was like, oh, shit, maybe he thinks I'm someone else. So I wrote him an email where I said, looking forward to the visit, but just want to throw this out there, just in case you hit Kevin in your email address book and it was the wrong Kevin. This is Kevin Smith, the guy who made Clerks. You do know that, right? And J.J. Abrams sent an email back, said, oh, fuck. So I went to the set. We did two shows in England, and then we had a day down, and I went to the set. And when you get there, it's at Pinewood Studios, where they made the Superman movies when I was younger, the Batman movies, Batman Returns, Batman, Tim Burton Batman, all the James Bond movies, all the Carry On films, a lot of movies they've shot at Pinewood, very historic. Pull up at the gates, a big banner on one of the buildings says EP7, now shooting EP7. So, you know, a little kid in my heart was just like, right on, Star Wars. And that's the important part of this journey, man. When the dude says, hey, do you want to come to the set? I'm like, oh, fuck yeah. I said, oh, fuck yeah, as Kevin Smith, as this guy, as the guy who stands on stage and is like, I love movies, I love comics and all that shit. The person that I've been for like 20 years now publicly. That's who said yes to that invitation. magical thing is what happens when I got there, that fucker went away, man. He disappeared, and I went further back to a Kevin Smith that I haven't seen in a long time. Like, the Kevin Smith that most people know is really a product of a bunch of friends. Like, Jason Mewes informed my personality. Brian Johnson, Walter Flanagan informed my personality. Prior to meeting those cats, I wasn't really the same person. I was a little kid who fucking loved Star Wars and wondered if there was anyone in the world who felt and thought the way I did. So as I pull up onto the set, it's as a filmmaker. It's as a guy who's like, yeah, I've seen behind the camera, behind the scenes many times. I know how the sausage is made, so you can't really impress me that much anymore. And there are things that I love, like a friend of mine is playing Batman, and I can't wait to see that movie. And when I saw a picture of him in the suit, I got all weak-kneed and stuff. I was happy. But it wasn't a feeling of childlike wonder. Like when the episode 1, 2, and 3 came out, I saw those in a theater first day. So one of them I saw early and whatnot. And I enjoyed them, but I said many times, like, I went into that movie completely different. When I was a kid, I loved the Star Wars movies. They were my fucking religion, you know? But when I was an adult, I didn't expect to enjoy episode 1, 2, and 3 the same way. They're kids' movies, and I was no longer a kid. So I can appreciate them for being well-made and continuations of stories that I loved as a kid, but it was never going to hit me the same way that Star Wars did. And that's something I said repeatedly and absolutely believed, and I still believe that to this day. So when people are like, how could you like episode 1, 2, and 3? I was like, I can appreciate it. Even though Jar Jar's in it, I could still appreciate it, man. Like, I sat next to a kid watching that movie, and that kid fucking loved Jar Jar. So I can't sit there and be like, Jar Jar should die. You know, it's like that character worked for who he was intended for. But when I went to the set, something else happened. It's fucking magical. Get into the Lucasfilm office where you have to sign a non-disclosure agreement, which says you're not going to say what you saw. So I can't tell you exactly what I saw. We'll work around it. Sign that. There's a poster hanging on the wall right there, and it shows an Imperial Starship commander in uniform going like this. And it says, loose lips sink starships. So they want you to not talk about what you see. And I said, this is awesome. And his assistant, Morgan, goes, JJ hung that up for you. Shh. So I was like, I got it. So we go to the set, and they're actually shooting. And this is what I can't tell you what they were shooting, but what I saw, I absolutely loved. And it was tactile. It was real. It wasn't a series of fucking green screens and blue screens in which later on digital characters would be added. It was there. It was happening. I saw old friends that I haven't seen since my childhood who aren't really friends, but I love them more than some of my fucking relatives. I saw uniforms. I saw artillery that I haven't seen since I was a kid. I saw them shooting an actual sequence in a set that is real. Like, I walked across the set. There were explosions. It was and it looked like a shot right out of a fucking Star Wars movie, man. I watched him do it like 4 times, standing there next to JJ. I was like, man, good for you. You're doing it. And I was still clinical at this point. It was still filmmaker Kevin Smith going, this is smart. You've got everything everybody loves in the movie, so it connects right back to our childhood. You're doing it justice, man. You're avoiding any mistakes. Like, you're doing a great job. This is a fucking Star Wars movie. Everyone's going to say, oh, blah, blah, blah. But it's still clinical. It's not here yet. It's working its way here, but it's still here on the level of, like, this is a very smart decision. This is going to work better than the last ones. And then JJ says to Morgan, his assistant, he goes, take Kevin to stage M. And I said, oh, I know it's on stage M. Because I seen online. That's the only reason I could talk about the Millennium Falcons, because people put up pictures online, said the Millennium Falcon's being built. So it's been out there. So they took me to stage M. There's a guy who opened the door for us, and she was like, can you turn on the lights? And he was like, right on, hold on. And he turns the lights on, and there's the Millennium Falcon from my childhood. Now, it's the outside looks like a movie set, but inside, fully replicated, fully built. The guy told me they took 2 blueprints, Star Wars and Empire, because the cockpit in Empire, never knew this before, cockpit in Empire was bigger than the cockpit in Star Wars. So they went somewhere between the two. So he takes me over, and I'm just looking at it. You could look at it from the outside, and you could still see inside, and I don't presume we're going aboard or anything. And then Morgan says, you ready to go up? And I said, we can go on it? And she said, yeah. And I said, right on. And I'm still clinical at this point. I'm still like, I'm going to step on the Millennium Falcon set. And I did. I stepped on the Millennium Falcon set, and my foot went on the landing ramp, and 10 years dropped off my life. Suddenly, all that shit, Jersey Girl, Cop Out, Red State, gone. Took another fucking step, another 10 years drop off my life. Now I'm in clerk's country. I take another step, I'm a fucking 18-year-old again. I take another step, 12. Take another step, I'm fucking 9 years old when Empire Strikes Back comes out. And I'm only halfway up the bridge. And then when I get to my fucking last step, man, 7. I'm 7 years old, standing on the ramp of the Millennium Falcon, and all the shit that I thought about myself and know about myself to be true, and everything that I project as Kevin Smith was fucking gone, and I just started crying. I was connected to my childhood in such a primal way, and I wasn't even stoned. Imagine how much better it would have been if I was baked. So as I walked up that ramp, I realized something was missing from those other movies, and it's now in these movies. And it's not the obvious of like, hey, the Millennium Falcon, or hey, the characters that we know that are returning. It's something else entirely. He's building a tactile world, a world you can touch, and he's replicating it with all the love of somebody that has the world's greatest collection of Star Wars figures. And when you walk on that set, man, I don't know how else to describe it except thusly, to use another pop culture reference to describe this pop culture phenomenon. It is like the Field of Dreams, the Kevin Costner movie. And if JJ builds it, we're all going to come hard because it's amazing. It looks fantastic. So anybody who's sitting there wondering like, oh, I wonder if he's going to pull it off, he's pulling it off. He showed me cut scenes, showed me sequences, images, pictures, like, I cried. Dude, I cried and I hugged that guy. And I'm sure as I was crying on him and hugging him, he's like, time is money, you know, because they're making a movie. But he got it. He was very flattered. And I was like, honestly, dude, like, you're doing it. You're making my childhood again. Like, you're doing our Star Wars. So what I saw blew me away. I was up until then, like, the movie I couldn't wait to see, of course, Superman, Batman versus Superman. Number one, I love Batman. Number two, I know the guy playing Batman this time. And, you know, Fat Man. But that just took second place. Suddenly, like, the guy who was like, yeah, Star Wars, I liked that as a kid. That dude now is this dude who's like, Star Wars still means the world to me. I don't know why, you know, it shouldn't. I've seen behind the curtain. I know how movies are made. But yet that mythology, like, called out to me. It was like being a lapsed Catholic, walking into the Sistine Chapel and suddenly remembering everything from your childhood, all those prayers, all those songs and shit like that. But in a good way. I don't like church, but I love Star Wars. So yeah, if he captures just a 10% of the feeling that I had by putting my foot on the deck of the ship, now we all ain't gonna get the chance to do that, put our, you know, walk on the Millennium Falcon. But if he captures just 10% of what I felt, they're going to make $1 gazillion. It'll be the top grossing film of all time because it's old home. It's seeing everybody you want to see again in a brand new adventure moving forward. I can't wait. So that's it.
Well, thank you very much.
Thank you, sir. Okay, who else?